Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouge, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors, au sommaire de ce Variation en noir numéro 23, deux romans dont nous voulions absolument parler avant fin 2015. Il s'agit de Battu d'Antonin Varenne aux éditions Écorce, qui date de l'été dernier, et Une plaie ouverte de Patrick Pécherot à la série Noire, un roman qui, lui, est sorti juste après l'été dernier. Et nous terminerons avec un petit cadeau, Décembre oblige, plus précisément une petite idée de cadeau à offrir ou à s'offrir. Alors Hervé, nous n'allons pas respecter la chronologie de sortie de nos deux livres, mais plutôt celle des époques où ils se situent. Et donc je te laisse commencer avec Une plaie ouverte de Patrick Pécherot.
Bien joué Guy. Et oui, nous allons donc commencer avec Patrick Pécherot, parce que une plaie ouverte, pour qui se rappelle une chanson célèbre qui est, ça fait référence à un deux vers du temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Alors très vite, Clément n'avait pas en fait cette ce qui est devenu une chanson très célèbre mais n'avait pas été écrite en 1866, donc n'était pas comme on l'a beaucoup dit, écrit en après et en hommage à la Commune de Paris et aux communards, mais Clément l'a dédié quelques années plus tard à une ambulancière qui avait sauvé des communards au moment de la Semaine sanglante, et donc évidemment c'est devenu une chanson qui est totalement en référence à cet épisode du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire et de sa répression. Tout cela nous amène bien sûr, la référence est évidente, au livre de Patrick Pécherot, qui chevauche entre deux époques, mais qui est notamment situé vraiment dans le vif des journées de la Commune de Paris. Et d'un autre côté, et c'est toute une des subtilités de la construction du livre, qui nous fait également voyager une trentaine d'années plus tard aux États-Unis, dans ce qui est encore ce qui est un peu la fin du Wild West. Voilà, tout ça à travers il est difficile de résumer ce roman, mais en gros, il y a une quête de, disons que c'est Marceau à la recherche de Dana. Dana, c'était un communard, Marceau aussi, mais il semble que Dana n'ait pas forcément été quelqu'un de tout à fait intègre, il se peut qu'il ait eu une attitude criminelle et tout, et tout le livre en fait, avec des moments qui se répondent à travers quatre parties, est une espèce de et la quête de ce Dana par Marceau. Et ce qui est un des prodiges du livre, en dehors de cette mise en regard de ces deux époques, c'est de nous faire traverser avec une rare authenticité, pas du tout une reconstitution genre en costume, enfin genre roman historique, mais de nous faire vivre à travers le Paris de la Commune, de nous faire croiser des personnages connus qui ont bien existé, Verlaine, Courbet, Vallès, Louise Michel, et également des personnages fictionnés, des gens du peuple, des gens du commun des mortels, et puis aussi évidemment cette balade, si j'ose dire, dans les plaines du Far West, où là aussi on va croiser Will Billy Cock, Calamity Jane, Buffalo Bill,
Sitting Bull,
et bien d'autres. Mmh. Mais je te laisse quand même la parole, Guy, pour intervenir.
Oh ben non, mais c'est parfait. Hervé, oui, j'allais évoquer cet aspect, hein, le fait qu'on croise des personnages historiques, tu les as cités, hein, de la Commune, Louise Michel, Jules Vallès, Courbet, etc., mais aussi Verlaine ou Rimbaud.
Oui, tout à fait.
Et puis d'un autre côté, Buffalo Bill, Calamity Jane, Sitting Bull, tu l'as dit, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, bon, c'est un roman qui est affiché par l'éditeur Roman Noir Historique, et peut-être que la garantie, hein, le label noir est porté par le fait qu'on suit la trace d'un détective de l'agence Pinkerton aux États-Unis. La boucle est ici brillamment bouclée par Patrick Pécherot. Moi, je voulais revenir, Hervé, sur le début de ton intervention et revenir à la chanson Le Temps des Cerises, qui effectivement, on pense, beaucoup pensent qu'elle a été écrite au moment de la Commune ou après la Commune, alors qu'elle a été, tu l'as dit, écrite.
Oui, 1866.
Avant, hein, puisque la Commune c'est 1800, mars 1800. C'est 1871. Donc, une des citations, hein, qui figure dans le roman de Patrick Pécherot, cette citation, je la lis: combien de mensonges devenus aujourd'hui des légendes et qui seront peut-être un jour de l'histoire.
Oui, je crois que c'est de Maxime Guillaume qui
c'est ça.
Dans le cahier rouge.
Et je pense que c'est cette citation qui doit avoir le plus inspiré Patrick Pécherot pour l'écriture de ce roman. On peut quand même signaler, oui, Mes Cahiers Rouges, hein, ou Au Temps de la Commune de Maxime Guillaume est quand même un des témoignages les plus importants sur les 72 jours d'une révolution qui a largement été portée par le peuple ouvrier parisien.
L'histoire qu'en fera Lisa Garret et d'autres livres,
une révolution écrasée dans le sang, mais il y a aussi une tentative peut-être d'éclaircir d'apporter, de la part de Patrick Pécherot, d'apporter un éclairage sur un sombre épisode, hein, qui hante le communard, les otages des fédérés et leur exécution, rue Axo.
Voilà, parce qu'il y a des pages, on aimerait, je pense qu'on n'a pas forcément le temps, mais on aimerait lire du Patrick Pécherot, parce que par ailleurs il y a une langue qui d'ailleurs varie, car elle correspond un peu à chacun des moments du livre, mais qui est un bonheur d'écriture et de lecture. Mais il y a évidemment des pages, quand il parle de la semaine sanglante, le massacre avait duré la semaine, on l'a baptisé sanglante, l'herbe des jardins goûtait d'une rosée sombre, dans les rues l'assaut donné, les barricades balayées, les chevaux piétinaient les corps, l'incendie ronflait, rageur, vengeur, réponse brûlante au bûcher des cadavres qui fumaient, noir de charogne au Luxembourg. Le feu, partout, entraîné de poudre et de pétrole, du désespoir en bonbonne giclait en larmes noires avant de s'embraser. Et pour en venir à ce que tu disais, Guy, comparé à ça, la rue Axo était café-concert de la mort d'opérette. Mais voilà, il est désert, assommant. Marceau entend celui-là depuis 34 ans. Une vilaine musique. Voilà. Et donc, effectivement, c'est cet épisode qui hante Marceau, qui hante sa quête, et le rôle que Dana a pu y jouer. Et effectivement, quand tu citais la citation qui est un peu servi de fil rouge à Patrick Pécherot de Maxime Guillaume, c'est aussi un livre sur la mémoire, sur la distorsion, sur ce qu'il y a de vrai, de faux, de reconstitué, d'où d'ailleurs le mélange de personnages authentiques et de personnages inventés ou nourris de différents exemples. Et il y a quête un peu fantomatique dans tout le livre. Et elle est d'ailleurs, il y a aussi des mises en regard, enfin, on aurait plein de choses à en dire, mais très intéressantes, comme par exemple des personnages qui se répondent d'un continent à l'autre, toutes deux portant pantalon et toutes deux avec une si forte indépendance, Calamity Jane d'un côté et Louise Michel de l'autre.
Oui, le parallèle est très, très, très intéressant.
Ah oui, tout à fait. Et puis également, ces gens qui partent à l'assaut du ciel d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire les communards d'un côté avec leur quête d'absolu, et de l'autre côté, les pionniers américains qui ont aussi à voir avec ça, qui partent à la conquête d'une terre vierge, voilà. Et donc il y a des raccords comme ça qui sont intéressants. Et oui, je voulais en venir juste à une chose aussi, c'est que évidemment dans ce croisement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, il y a aussi la présence de du cinéma naissant, qui est suivant la formule très classique, ce qu'on appellera l'usine à rêve.
Oui.
Donc voilà.
Avec le premier western, Cripple Creek Barroom.
Yes.
Un film d'une minute trente. Non mais le titre est très beau, hein, une plaie ouverte. Mais moi, quand j'ai terminé ce bouquin, j'ai pensé à un titre d'un livre de Leonardo Padura, un auteur que nous aimons bien,
oui.
Hervé, Les brumes du passé.
Les ombres du passé.
Les brumes du passé.
Les brumes, pardon. Oui, oui, oui.
Voilà. On est. Mais c'est très très proche. Les ombres du passé, ça aurait été aussi très très
joli. Les brumes, ouais, c'est beaucoup mieux.
Mais effectivement, et moi je pense que on peut quand même dire à nos auditrices, nos auditeurs, que s'ils se lancent dans la lecture de ce livre, hein, ce qu'on leur conseille fortement, il ne faut pas se laisser désarçonner au début par ces allers-retours effectivement surprenants entre la commune et puis donc le Calamity Jane, Buffalo Bill. Il faut se laisser porter et par cette construction très savante, mais de Patrick Pechereau, hein, qui nous a donné l'habitude, hein, dans ses romans, de mêler petite et grande histoire avec une prédilection pour la grande histoire des petites gens. Donc ne pas se laisser désarçonner par le début, hein, et bien se laisser.
Tout à fait raison. Faut peut-être se laisser, justement, quand on s'embarque dans ce livre, il faut se laisser porter. Il y a une véritable, le mot fait un peu galvauder, mais il y a une véritable musique du texte, enfin des mots chez Patrick Pechereau. Je pense qu'il faut se laisser un peu porter par ça, et très vite, le raccord va apparaître, entre tout le sens de tout ça va apparaître. Et puis, effectivement, comme tu le disais très bien, on retrouve Patrick Pechereau, dont on sait l'importance parmi d'autres auteurs, mais qu'on pour lui Jean-Ami Lamecker, qui nous est cher, ou Léo Mallet. Et il est évident que Patrick Pechereau est un écrivain par ailleurs de Paris. Il l'a prouvé avec Les brouillards de la butte et d'autres romans.
La saga qui trois romans là du Paris populaire, hein, de l'entre-deux-guerres, qui sont réunis aujourd'hui en un seul volume, la saga des brouillards.
Oui.
Voilà,
tout à fait, la saga des brouillards. Et puis il y a aussi ce vif intérêt, évidemment, pour quelqu'un qui a beaucoup marqué Le boucher des hurlus d'Amila, pour les personnages broyés, comme ceux qui l'ont été par la guerre de 14-18, comme Pechereau, ce qui a donné le livre de Pechereau, Tranchecaille, par exemple.
Voilà.
Voilà.
En tout cas, avec une plaie ouverte, un Pechereau qui maîtrise son art, je trouve.
Hein, oui, absolument, absolument. Ça, c'est une certitude, et c'est vraiment un très beau livre. Inside it's long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a smoke child's face, watching yellow shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines. The days of pearly Spencer, almost round.
pressed hard on frosted glass, gazing at a swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees, smart as the air, at withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. The days of early Spencer is almost run. Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? It's buried in the rope gap gin you played and lost no one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats can run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Rodolphe Burger ou Burger, hein, comme c'est selon choisi dans Variation en noir sur Radio PFM.
Donne-moi le titre.
Le titre, alors, donc bon, c'est pardon. Un extrait de l'album Session Valley. C'est une reprise d'une chanson très célèbre des années 70. Et
oui,
Bernard va nous donner Bernard va nous donner le titre. C'est lui qui a la
pochette. Days of Pearly Spencer's.
Voilà. Et donc, c'est extrait de l'album Session Valley qui est sorti il y a 7-8 ans, je pense.
C'est très bien trouvé parce que il y a quand même dans cette belle chanson, il y a une mélancolie qui n'est pas, on ne peut pas, qui est assez présente dans les romans en général et dans Une plaie ouverte de Patrick Pechereau. Donc.
Merci Hervé, merci. c'est gentil. Alors, on en arrive dans Variation en noir à Antonin Varenne, un auteur, bon, on est dans le roman noir français, qui s'est aussi frotté au roman noir historique.
On l'avait quitté avec 3000 chevaux vapeur,
ouais.
Je crois un livre qu'on a beaucoup, beaucoup aimé, qui était prodigieux dans ce sens où il nous emmenait... dans la deuxième partie du 19e,
voilà.
Si mes souvenirs sont bons, on commençait en
aux
Birmanie,
Amériques, ouais, mais il nous emmenait aussi aux Amériques.
On commençait en Birmanie, on passait par le Londres qui nous rappelle Dickens, enfin bon, tout ça et tout, un Londres assez très noir et tout ça, et on arrivait dans le Wild West américain.
Tout à fait.
Historique, noir, d'aventure, enfin bon. Voilà.
Alors on
et
peut
là,
signaler...
je crois qu'on peut dire qu'Antonin Varenne a déplace
tout à fait,
le
curseur
et le lieu.
Oui, oui, tout à... avant, on peut quand même citer qu'il y avait un roman aussi qui faisait référence à la guerre d'Algérie, Le Mur, le Kabyle et le Marin, qui d'ailleurs
absolument.
A été lauréat du prix Ami Lamecker en 2012.
Ah bah oui, ça, il est une bonne idée de le rappeler.
Voilà,
oui,
hein, donc, et donc là, on a été surpris, pas vraiment, parce que bon, on sait qu'Antonin Varenne vit dans la Creuse.
Je peux le certifier. siècle. Oui.
Voilà, donc j'imagine. Et donc un roman complètement différent de ce qu'il nous avait donné jusqu'à présent, ça s'appelle Battu aux éditions Écorce. C'est une sorte de nature writing à la française, hein. Un roman qui montre que justement nature writing ne rime pas qu'avec Montana, Arizona, encore Wyoming, ça peut aussi rimer avec Creuse.
Ouais. Ça paraît d'ailleurs ça inaugure un peu cette collection Territory que font ensemble les éditions Écorce et la Manufacture des Livres. Mm-hmm. On en a déjà parlé ici.
Les éditions Écorce, on n'en a pas parlé. On a parlé effectivement de la Manufacture de Livres, notamment à propos de Grossir le ciel de Franck Guis. On y reviendra tout à l'heure.
Cela est lié.
Oui.
Disons. Voilà,
mais justement, alors Hervé, un mot sur.
De Cyril Herry et Pierre Fourniaud qui font émerger cette. Un des lieux éditoriaux qui fait la démonstration que le roman noir ne se passe pas forcément à Paris, Lyon, Marseille ou autre.
Voilà, donc édition Écorce et cette collection Territory. Donc en fin de compte, Battu, mais c'est pour aller très vite. Je ne suis pas aussi brillant que toi, Hervé, pour résumer les livres dont nous voulons parler. Bon, c'est l'histoire d'un garde-chasse qui... on est dans... On ne sait pas exactement où on est, hein, puisque la ville n'est pas citée. Elle s'appelle R. Hein, bon, on peut penser
On pourrait penser qu'elle ressemble à des lieux de la Creuse.
Voilà.
Parce que je connais un peu la Creuse, donc...
Le R, moi, me faisait penser aussi à Rodez. Hein, on n'est pas tout à fait... Et dans la Creuse, on n'est pas très, très loin, mais enfin, c'est ce coin-là. Et donc, l'histoire d'un garde-chasse qui n'a jamais vraiment été reconnu comme originaire du pays. Et donc, à côté de ça, une fille de famille hein, de ce pays qui, elle, dénote, avec aussi en arrière-fond un projet, un centre touristique clinquant. Pas du tout reluisant, hein, mais plutôt genre VRU, dans une nature préservée. Donc, ça en devient d'ailleurs presque un huis clos hein, dans cette nature, mais avec un poids de la nature vraiment très fort. Hein. On sent que Antonin Varenne, que tu connais bien, Hervé.
Toi aussi.
Oui. Est un auteur qui a visiblement tâté du tracteur, hein, de la randonnée, alors du fusil de chasse, je ne sais pas, mais la description hein, des hordes de sangliers est vraiment très, très forte.
Qui est un peu vers l'ouverture du livre, oui, absolument. Et puis, il y a un côté... Il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a une authenticité. Il est évident que ça n'a pas été choisi comme un décor d'un auteur qui aurait passé deux fois des vacances. Ça, c'est évident.
Oui.
Il est évident aussi qu'il y a une véritable, une beauté des passages qui se déroulent dans la nature. Et je trouve qu'Antonin Varenne fait vivre la nature au plus près. Comme un Ron Rash peut le faire, par exemple. Je pense à ces références-là. Il y a aussi une chose, ça m'a fait penser à un très ancien livre qu'a donné un film qui vous parlera peut-être plus, qui s'appelle Les Grandes Gueules, de Robert Enrico, je crois, et qui était d'après un roman de Pierre Pellot. Non, c'était pas Pierre Pellot, je dis une bêtise, c'était un roman de José Giovanni, je pense, voilà.
C'est enfin, bien possible,
bref, c'était Le Haut Fer, Pierre Pellot aussi a fait des choses dans ce genre, mais, et qui était une espèce de western vosgien, avec déjà là le gros exploitant forestier qui veut tenir toute la vallée, et le petit propriétaire qui tient sa petite scierie et qui résiste avec une bande de tôlards libérables parce que c'est les seuls employés qu'il a pu trouver. Enfin bon, voilà.
Qu'elle a pu trouver, Hervé, si mes souvenirs sont bons, c'est Simone Signoret, non? C'est une exploitante.
Alors non, il y a Bourville qui joue le petit exploitant résistant et il y a. il est aidé dans cette affaire par Lino Ventura, qui est un libérable, et puis le ténébreux Michel Constantin.
Oui, tout à fait.
Mais c'est Marie Dubois qui joue...
C'est Marie Dubois, oui.
Dans ce film, où il y a par ailleurs, parmi les acteurs très secondaires, le papa de Nicolas Mathieu. J'ai
ah bon
ça.
Ah, d'accord. Oui. Nicolas Mathieu, l'auteur de,
oui.
D'un roman qui est paru chez Actes Noirs, dont on a parlé aussi beaucoup ici, Aux animaux la guerre.
Absolument. Mm. Mais pour en revenir à Antonin Varenne, on a cette dimension, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les Courbis, il y a deux grosses familles qui tiennent le territoire, et les politiciens qui vont avec, évidemment, qui décident de la région, de la mairie et tout ça. Il y a, je crois, si je me souviens bien, les Courbiers qui sont les exploitants forestiers, et y compris une sorte de bretelle autoroutière où a été construite pour aider les camions à transporter le bois. Et de l'autre côté, il y a les Massenet, dont est issue la jeune femme dont tu parles, dont tu as parlé au début, Michel, et qui, eux, sont les fermiers, si on peut dire. Voilà. Et au milieu de cela, il y a ce personnage abîmé par la vie et physiquement abîmé très fortement au visage, qui est Rémy, le garde forestier. Et c'est
voilà. Rémy Parrot, hein, quand tu parlais de Pierre Pelot, ça me faisait penser aussi à Rémy Parrot.
Bah, complètement. Ouais. Rémy Parrot, ça fait effectivement penser à ça. Et c'est ça qui est aussi très, très fort. C'est-à-dire qu'on a une sorte, t'as parlé très justement du côté un peu lieu clos, étouffant, alors qu'on est en pleine nature. Il y a un côté, Chabrol qui serait croisé avec des auteurs américains on a parlé de Ron Rash, mais oui. On peut parler de Benjamin Whitmer par rapport à des gens un peu sur le côté, c'est-à-dire un peu abîmés de la vie et qui ne vivent pas totalement en marge, mais on peut pas dire non plus qu'ils sont totalement ni dans le moule, ni ils ont une vie à l'écart, comme Rémy qui vit sur sa terre noire, le seul arpent de terre qui a échappé à la conquête des deux gros, ou comme Philippe, qui a un côté un petit peu éco-warrior,
Donc,
tu es d'accord avec cela.
Oui, ouais, donc le roman d'une chasse gardée pleine d'une violence
très
qui
bien.
Peut rester contenue. Donc on vous recommande, n'est-ce pas Hervé, Battu
Antonin. Oui, avec là aussi quand même, disons-le, une construction très intéressante.
Ah oui, c'est oui, vrai, je voulais en dire un mot. Effectivement, des allers-retours très... c'est finement ciselé et on est complètement pris. Hein, le bouquin.
On est pris dans cette espèce de spirale qui s'ouvre avec ce titre de chapitre qu'on peut trouver intriguant au départ, qui est 1, 20 ans après l'accident, 9 jours après la découverte du premier cadavre, 12 heures après la fusillade.
Tout à fait. Hein. Et
oui.
Après, on va remonter dans le temps, il va y avoir de nombreux allers-retours, mais c'est vraiment très bien construit. Donc c'est Battu d'Antonin Varenne aux éditions Écorce, collection Territory. Alors on a évoqué Franck Bouys, Hervé, en parlant d'Antonin Varenne. Et donc tu as une nouvelle à nous annoncer, je pense, par rapport à Franck Bouys.
Eh bien oui, samedi dernier, dans la bonne ville du Mans, Franck Bouys a reçu le prix Michel Lebrun pour son roman Grossir le ciel, dont on a parlé ici.
Oui.
Et il les a reçus de celui qui était le parrain cette année, des mains de notre cher Jean-Bernard Pouy. Et
d'accord.
Voilà, et le prix Michel Lebrun, il nous est cher aussi,
oui.
Parce que c'est un prix qui porte le nom d'un des fondateurs de l'association 813, Michel Lebrun. Ça a été quelqu'un, je pense, peut-être un peu oublié aujourd'hui, malheureusement, mais qui a beaucoup œuvré pour le polar, qui a été lui-même scénariste, qui a écrit des dizaines de livres, de romans, et de nouvelles. Dans les romans, quand même, il y en a qu'on peut encore trouver. Rivage a réédité Autoroute et Le Géant, qui sont deux livres vraiment très forts, à mon avis, qui tiennent très bien. Et Michel Lebrun aussi s'occupait de l'Almanach du crime, a fait des anthologies. Enfin voilà, c'était vraiment un des grands connaisseurs et passeurs du polar. Et je crois que Franck Buis était très heureux de recevoir ce prix.
Donc Franck Buis, Grossir le ciel, hein, aux éditions...
Grossir le ciel, aux éditions...
La Manufacture, voilà, de
Manufacture, et au même... Et on peut l'annoncer, je pense qu'on en reparlera, mais sort le 7 janvier de Franck Buis un autre roman, chez les mêmes, qui s'appelle Plateau.
Ah, ben, bonne nouvelle, d'autant que...
Oui.
Ben, Franck Buis, on pourra le rencontrer à Reims, au Salon du Livre, le 1er mai prochain, il devrait être là, tout comme... Hervé Patrick Péchereau et Antonin Varenne.
Qu'est-ce que c'est raccord tout ça, quand
voilà.
Même.
Alors,
et
dernière
surtout,
chose.
Qu'est-ce que ça nous fait plaisir.
Dernière chose, on n'en parlera pas très longtemps parce que il nous reste plus de temps, Hervé. Mais petite idée de cadeau, c'est un peu bateau là, hein, à cette période de l'année. Mais bon, allons-y parce que ça vaut le coup. Hein. Moi, j'étais emballé par C'est l'histoire de la série noire, un livre sous la direction de Franck Lomo et Alban Cerisier, qui est sorti aux éditions Gallimard, un livre donc à l'occasion des 70 ans de la série noire qui à la fois propose des documents très intéressants, des facsimilés de notes de lecture, des photos, plein de choses, des courriers entre auteurs et éditeurs, et notamment donc le fondateur bien entendu de la série noire, Marcel Duhamel. Et puis des textes vraiment très, très intéressants qui retracent l'histoire de la série noire, les différentes périodes de la série noire. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le parcourir, Hervé, peut-être pas encore.
Je l'ai feuilleté. Il y a effectivement une superbe iconographie. Il y a un document. Enfin, je crois que c'est la somme qui existe dorénavant sur la série noire.
Voilà.
Franck Lomo et sa revue Temps Noir, de toute façon, ont travaillé beaucoup sur les archives et sur l'histoire de cette collection mythique. Voilà, parce que tout bêtement, elle a fait passer le noir en France et qu'elle a fait connaître un les auteurs anglo-saxons et deux elle a provoqué l'écriture d'un roman noir français, voilà, Amila, Manchette, et puis après tous les gens dont on parle depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, Patrick Rénal,
leur collection.
Oui, Patrick Rénal, Hervé, qui a dirigé la série noire de 91 à 2005, considère que la série noire est devenue un nom générique. On dit une série noire pour un polar, explique-t-il, comme on dit un frigidaire pour un réfrigérateur. Donc,
oui,
effectivement...
Effectivement, tu as totalement raison. De toute façon, des auteurs aujourd'hui publiés dans d'autres collections, tous reconnaissent que la matrice, c'était la série noire. Et effectivement, voilà.
Voilà, avec des contributions aussi de Benoît Tadier sur le lien entre séries noires, romans et cinéma et films noirs, de Claude Mesplède, bien entendu, de Patrick Rénal, donc, et puis d'Aurélien Masson, qui dirige actuellement la collection. Donc, un livre auprès de 3000 titres, on n'en est pas très loin aujourd'hui à la série noire, qui ne se feuillette pas comme un beau livre, mais qui se lit comme un grand livre. Donc, avis aux amateurs.
Un beau cadeau.
Voilà, c'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard de nous accueillir toujours très amicalement dans son émission. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir. Merci Guy, merci voilà. Bernard et bonne fête à tous.
Voilà, et rendez-vous donc l'année prochaine, fin janvier 2016, pour de nouvelles explorations en noir. Donc effectivement, bonne fin d'année à toutes et à tous, avec bien entendu d'excellentes lectures au programme des réjouissances.